Ce matin, j'aimerais que l'on aborde un thème très hédoniste, voire même très épicurien. En sachant, on va se poser la question de savoir un petit peu comment vivre nos journées. Comment vivre une journée, et une journée en particulier. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans le psaume 118, verset 24, qui dit la chose suivante. « Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ce verset, enfin le psaume 118 fait partie du Hallel. C'est un groupement de 6 psaumes qui sont chantés dans les fêtes rituelles juives. Du psaume 113 au psaume 118. Et ce verset est quelque part le point d'orgue de la Pâque puisqu'il annonce ou il rappelle eh bien, le fait que Jésus est mort mais qu'il est ressuscité. Et c'est à ce moment-là que les Juifs, lorsqu'ils récitent eh bien, ce verset, qu'ils proclament et qu'ils réalisent le fait que Jésus-Christ est mort, mais qu'il est ressuscité. Enfin, du moins, nous, enfin, les chrétiens, on va dire ça comme ça. Et donc, voyez-vous, il y a cette réalité qui est là, c'est de se dire finalement, une journée, mais c'est hyper banal. Une journée, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Je ne sais pas si vous vous levez le matin en vous disant que vous vivez un miracle. Mais pourtant, c'est une réalité. C'est-à-dire que chaque jour que nous vivons est un jour particulier où, eh bien, nous vivons une grâce de la part de Dieu. Ça va ? Notre cœur peut s'arrêter de battre à peu près à n'importe quel moment. Vous êtes conscient ? Ouais, vous êtes content d'être venu. Hein. Je suis hyper positif comme mec ce matin. D'accord ? On peut passer sous un bus à n'importe quel moment. D'accord ? C'est une réalité. Okay ? Et pourtant, on vit un miracle perpétuel. Et j'aimerais voir avec vous un petit peu ce matin 4 axes qui nous appellent finalement à vivre nos journées d'une manière un petit peu différente, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu. Première chose, c'est que dans ce verset, on commence par un démonstratif qui s'appelle « voici ». Et ce petit mot eh bien, nous donne une direction. Vous savez, dans notre culture, dans notre manière de penser, dans notre manière d'être, nous sommes soit projetés vers le passé, soit projetés vers l'avenir. Okay ? On est en mindset où finalement, ce qui nous préoccupe, c'est ce que nous avons vécu eh bien, dans notre passé, et on sait que notre passé peut avoir des implications qui sont hyper importantes. C'est-à-dire que notre passé conditionne énormément notre présent et énormément notre futur. Ce que l'on a vécu eh bien, dans notre enfance, que l'on a vécu dans notre adolescence, que l'on a vécu hier, notre éducation, impacte forcément ce que nous sommes aujourd'hui, et d'une manière beaucoup plus forte eh bien, que ce que l'on peut penser. Les injonctions parentales, notamment, eh bien, impactent énormément l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Et c'est comme ça. Et quelque part, le passé a un impact qui est juste extrêmement fort. Et pour certains d'entre nous, la peur de l'avenir est quelque chose qui est également extrêmement présente. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas comment est-ce que notre situation professionnelle va évoluer. On ne sait pas comment notre vie familiale va évoluer. On ne sait pas grand-chose. Et l'avenir peut être terriblement anxiogène. Et ce verset nous dit la chose suivante. Voici, il nous donne une direction. Regarde à aujourd'hui. Regarde simplement à la journée qui s'ouvre. Et je ne parle pas simplement pour le culte de ce matin, mais demain, quand tu vas te lever, eh bien, que ce petit mot, voici, te permette de regarder au lundi que tu vas vivre. Et que le mardi, tu puisses faire à peu près la même chose en te disant, eh bien, c'est la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est quelque part une direction qui nous est donnée. Et vraiment, je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons apprendre à apprécier ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Et ce, quel que soit ce que nous allons vivre. Imaginez la pire des catastrophes qui puissent vous arriver. Votre femme vous dit « Ma mère vient à la maison ». Pour la petite histoire, ma belle-mère est dans la salle. Donc c'est une histoire qui est vécue. D'accord ? Ok ? Et là, c'est le trou noir, c'est le néant devant vous. Vous dites, mais ma femme est plâtrée, j'ai ma belle-mère qui se pointe. Et il y a ce verset qui retentit dans votre esprit. Voici, la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi, Olivier, un sujet de joie. Voyez-vous, quel que soit le jour que nous vivons, eh bien, je suis persuadé, et nous le verrons tout à l'heure un peu plus en détail, que Dieu y a mis des choses que nous pouvons apprécier. L'apôtre Paul écrira à Timothée que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et c'est bien d'associer les deux. La piété, c'est tous les actes que nous pouvons faire de manière à nourrir notre foi et à nourrir notre relation avec Dieu, de manière très schématique. Et le contentement, c'est la capacité que nous pouvons avoir à apprécier ce qui est inhérent à notre relation avec Dieu. Et nous savons que Dieu, dans nos journées, eh bien, nous donne toutes sortes de cadeaux, toutes sortes de grâces. Regarde, retourne-toi, tu verras des amis qui sont des cadeaux extraordinaires. Tu verras un mari qui est un cadeau extraordinaire. Tu verras une épouse qui est un cadeau extraordinaire. Tu verras des enfants qui sont des cadeaux extraordinaires. Tu verras des amis qui sont des cadeaux extraordinaires. Tu verras des choses que finalement Dieu a mis devant toi dans la journée que tu es en train de vivre. Et finalement, nous sommes dans une société dite de consommation. Consommer en grec, ça signifie détruire. Et où nous détruisons sans jamais recréer derrière. Où finalement, nous prenons les bienfaits de Dieu sans que ces bienfaits ne soient transformés en quelque chose qui nourrisse notre âme. Nous consommons sans jamais que ce que Dieu nous donne produise dans notre âme une forme d'investissement. Je pense que toutes les grâces que Dieu nous donne dans une journée devraient avoir un ROI, c'est-à-dire un retour sur investissement. Dieu me donne une bénédiction, qu'est-ce que ça va générer comme bienfait pour mon âme ? Dieu me donne un pasteur extraordinaire, ok, souriant, volontaire, non, je parle de Nathanaël, hein, d'accord ? Moi, je suis stagiaire ici, hein, que les choses soient claires. Et Dieu me donne un pasteur extraordinaire, qu'est-ce que ça produit dans mon âme ? Est-ce que, quelque part, ça nourrit mon âme en disant, waouh, quand même, il y a des hommes de Dieu qui, eh bien, font un sacré bon boulot et qui, quelque part, eh bien, me montrent un exemple. Waouh, dans mon travail, j'ai eu une évolution. Qu'est-ce que ça produit dans mon âme et comment est-ce que ça vient générer un retour sur investissement dans ma foi ? Il y a une jeune fille, un jour, qui m'a donné une parole dont je me souviendrai toujours. Elle m'a dit, c'est incroyable, on peut prier des jours et des mois pour que Dieu nous bénisse, et passer 5 secondes à le remercier. Et je crois qu'elle avait sacrément raison. C'est-à-dire qu'on peut passer un temps incroyable à demander des choses, et une fois qu'on les a obtenues, elles ne produisent finalement pas grand-chose dans notre cœur et dans notre vie. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et demande-toi, en adorant, combien ont porté du fruit dans ta vie. Je vous ai bien eu là. Qu'est-ce qu'on fait des cadeaux que Dieu nous donne ? Qu'est-ce qu'on fait des grâces que Dieu nous donne ? Dans l'histoire des Israélites, vous savez, ils sont dans le désert et tous les jours, il y a la manne qui tombe. Ils n'ont pas besoin d'aller à Carrefour, ils n'ont même pas besoin de faire un drive. À la porte de leur maison, il y a la nourriture qui est là. Ils ont juste à se baisser et à la ramasser. Et à un moment donné, il est dit qu'ils vont prononcer ces paroles. Nous en avons marre, nous en avons assez de ce pain misérable. Bien voyez-vous, les jours que Dieu nous donne, ça peut être un petit peu comme ça. Chaque jour, c'est de la manne. Chaque jour, c'est une occasion, c'est un cadeau que Dieu nous donne pour nourrir notre âme, pour qu'il y ait un retour sur investissement, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous épanouir, pour que nous puissions apprendre, pour que nous puissions être heureux. Qu'en faisons-nous ? Et est-ce que, par hasard, nous ne disons pas, et ça m'est arrivé un certain nombre de fois dans ma vie, donc ne vous sentez pas coupable si jamais c'est votre cas, et ça vous arrivera encore certainement, ok ? Comme ça m'arrivera encore certainement, de dire « j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de ces jours misérables. J'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de patienter, j'en ai marre de vivre la réalité que je suis en train de vivre. Et finalement, on ne vit ni la piété, ni le contentement, mais on est en train de passer juste à côté d'éléments que Dieu a mis pour que nous puissions nourrir notre âme. Dans la vie chrétienne, il y a un principe qui est fondamental. Il y a toujours la part de Dieu, il y a toujours la part des hommes. Dieu ne fait jamais rien sans nous. Et le grand principe, c'est que Dieu met devant nous des œuvres bonnes afin que nous puissions les accomplir, afin que nous puissions les vivre, afin que nous puissions les transformer, et charge à nous, ensuite, eh bien, de les saisir, de nous les approprier, et non pas de les consommer, mais de les transformer. Voici la journée que l'Éternel a faite. Et il y a un petit mot qui est clé dans cette formule de la journée, c'est le déterminant là. Il n'y en aura qu'une seule comme aujourd'hui. Nous sommes quelle date ? Pardon ? Le 21, merci, je suis nul pour les dates. D'accord ? Nous sommes le 21 septembre 2025. Il n'y aura qu'une seule journée comme celle-là dans toute ta vie. Pourtant, tu t'es levé le matin, tu as fait à peu près comme d'habitude. Tu t'es essuyé, tu t'es frotté les yeux. Tu es allé devant le miroir, tu t'es dit « Oh, quelle sale tête j'ai !» Tu es passé sous la douche, tu t'es éventuellement maquillé et tu t'es fait toute belle. Et tu dis « Ah, ça va mieux !» Tu es allé préparer le petit-déj, les enfants sont arrivés, tu t'es disputé avec ton mari comme d'habitude. Bref, le classique, la base, quoi. Parce que forcément, il parle beaucoup et puis toi, tu n'aimes pas qu'il parle. C'est du classique. Ou alors le contraire, je sais pas, mais il y a toujours un comme ça. C'est le classique, c'est le banal, c'est normal. C'est une journée, c'est la journée type, c'est le prototype même de la journée. Et puis, tu as pris ta Bible sous le bras, allez, on va à l'église. Et les enfants ont hurlé dans la voiture et puis tu arrives ici, ah, tout va bien. C'est la journée type, tout est pareil. Mais il n'y en aura qu'une seule comme ça. Et voyez-vous, une journée, ça a une date de péremption. C'est-à-dire que une journée, c'est une seule chance de recevoir une bénédiction. Une journée, c'est une seule chance de donner une bénédiction. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans le livre de l'Exode, on a ce passage où Moïse, il est en train de faire paître le troupeau de son beau-père, là, dans le désert de Madian. Une journée comme les autres. Et comme souvent, c'est le commentateur qui l'explique, il voit un buisson qui est en train de brûler. C'est quelque chose qu'il connaissait. Mais à ce moment-là, il s'aperçoit qu'il y a un truc qui est différent. C'est que ce buisson, là, il brûle, mais qu'il ne se consume pas. Une journée comme toutes les autres. Une journée avec son troupeau. Une journée avec son angoisse, une journée avec son passé, une journée avec la culpabilité d'un meurtre, une journée avec le questionnement de savoir pourquoi Dieu lui avait mis des choses sur le cœur qui ne s'étaient jamais produites. Une journée comme les autres. Mais là, il y a un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et Moïse va s'approcher de ce buisson. Et là, ça va être le lieu de la rencontre. Ça va être le lieu du changement. C'était la journée, avec le buisson, avec le moment et avec le temps de Dieu. Dans nos journées, Dieu a mis des buissons qui brûlent et qui ne se consument pas. Moïse aurait pu passer en disant ses arbis. Il aurait pu regardez ça d'un œil éloigné en disant « c'est bizarre comme truc, animé par des peurs, par des craintes. » Il aurait pu se dire qu'il était trop occupé. Il aurait pu se dire que finalement, il avait autre chose à faire. Ou que ce n'était pas très important. Mais ce jour-là, c'était le jour que Dieu avait choisi pour venir le rencontrer. Dans nos journées, Il y a des choses qui sont périssables. Un don spirituel peut être périssable. Une pensée que tu as reçue pour quelqu'un peut être périssable. Un don spirituel, c'est quoi ? De manière très, très schématique. C'est la rencontre entre une parole de Dieu et la capacité d'un cœur à l'accepter. Exemple tout bête. Ce paralytique était à la porte du temple dans le livre des Actes des Apôtres alors que Pierre et Jean montaient. Ce paralytique, il avait vu le ministère de Jésus. Jésus était monté au temple et avait certainement croisé cet homme. Mais à ce moment-là, le cœur de cet homme n'avait pas suivi le processus qui lui permettait de vivre cette guérison. Mais ce jour-là, était-ce un lundi, était-ce un mardi, Pierre et Jean montent au temple. Et cet homme, il fait comme d'habitude, une journée comme les autres. Il tend la main pour avoir l'aumône. Et là, Pierre, il tilte. Il y a un truc qui se passe dans son cœur. Il regarde cet homme et lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom, Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Et cette parole va rencontrer la temporalité. C'est le moment pour cet homme. C'est comme, je ne sais pas ce qui s'était passé le matin, il s'était peut-être dit, il avait peut-être parlé à un Dieu, parlé à une puissance, parlé au Dieu de la synagogue qu'il connaissait, et puis c'était ce moment-là où il avait peut-être dit, qu'il se passe un truc dans ma journée, que quelqu'un me donne une parole, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais en tout cas, c'était une temporalité. À un moment donné, la parole de Dieu prononcé par Pierre, a rencontré la foi de cet homme. Et c'était le jour, c'était le moment, parce qu'il y avait une circonstance qui a fait que. Et donc, une parole de Dieu, un don spirituel, ça a bien souvent une valeur qui est limitée parce que ça rentre dans le cadre d'un processus de vie de quelqu'un d'autre. Et on a toujours tort de le retenir. On a toujours tort de ne pas le prononcer. Concrètement, je vais être là encore très manichéen, mais un don spirituel, vous le prononcez, vous vous trompez. Il se passe quoi ? Rien. Il ne se passe rien. Vous ne le prononcez pas. Il ne se passera rien et c'est bien dommage. Et soyons bien d'accord, les dons spirituels, j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas que pour le dimanche matin. Et je dirais même que 99% des dons spirituels ont vocation à s'exercer en dehors du culte. Ça, monsieur le pasteur ? Ouais, ok. Et parfois même de manière complètement inconsciente. Parce qu'on y aspire et parce qu'on le désire. Un collègue de travail va pas bien, claque. On donne juste la bonne parole, le bon truc qui va bien, parce qu'on a juste soif de le faire, quoi. On ne sait même pas qu'on a donné un don spirituel, mais on a donné quelque chose que Dieu avait préparé. C'était la journée pour le donner au bon moment et à la bonne personne. Et ce qui est vrai pour le fait de donner, c'est vrai également pour le fait de recevoir. Ce moment de sa vie, Moïse, il a reçu. Et on a tellement de bonnes raisons de ne pas recevoir. Tellement de bonnes raisons de ne pas s'arrêter devant les buissons. Quand l'apôtre Paul dira « prier sans cesse », ce n'est pas qu'on a vocation à sans arrêt être sur nos genoux. Et ce verset, on pourrait le développer, mais ce n'est pas le jour, ce n'est pas le moment. C'est juste cette capacité que l'on a à s'interrompre parfois dans nos activités pour rentrer dans les activités de Dieu. Juste ça. Juste cette capacité de dire, ok, je suis devant mon tableau Excel, mais à ce moment-là, j'ai peut-être un mot à dire, j'ai peut-être un texto à envoyer, j'ai peut-être un snap à faire, pour les plus jeunes d'entre vous. Moi, je suis génération Facebook, ouais, je sais, vous ne connaissez pas, ouais, c'est bon, ok, ça marche. J'ai peut-être un post Insta à faire. De manière, parce que je l'ai à cœur et parce que ça sera rentré dans les œuvres de mon Dieu, quoi. Et finalement, je crois qu'il y a des moments dans ta vie où Dieu veut avoir une connexion avec toi. Où il a besoin que tu te poses, il a besoin que tu t'arrêtes. Et tu dises, ok, je suis prêt à recevoir ce que tu veux me donner là. Une journée, c'est quoi? C'est 24 heures. Petit quiz, j'ai pas besoin de votre réponse, vous pouvez donner la réponse intérieurement. Qui fait un check de ce qui s'est passé dans sa journée le soir? C'est-à-dire que là encore, on a notre petite routine. On rentre, les enfants, le repas, la vaisselle, le truc, le machin. Et puis on se couche, et puis on dort, et la journée est passée. Et concrètement, on en a fait quoi? Dans cette journée, on a eu plein d'émotions. Dans cette journée, on a eu plein de sentiments. On a eu plein de trucs qui nous ont traversés. Des bons, des mauvais. On a des choses qui nous ont construites. On a des choses qui nous ont fait du bien. On a des choses qui nous ont détruites. On a vécu des choses qui nous ont blessés. Et ça fait partie d'une journée, quoi. Les émotions, ça vient, on entend des choses, ça produit une forme d'énergie en nous, etc., qui elle-même est soit constructive, soit destructive, ok. Et on en fait quoi, tout ça? On passe la journée d'après en ayant, eh bien, comme enquisté des sentiments et des contrariétés qui sont là et qui vont nous détruire dans quelques temps, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais, pardonnez-moi d'être trivial, la prière, ça sert à ça, quoi. Et le soir, quand on a fini notre journée, hop, un petit check-up. En disant, ok, qu'est-ce que je dois nettoyer? Qu'est-ce que cette journée a construit en moi? Et qu'est-ce que elle a vocation à produire en moi? Ok. Oui, je me suis pris la tête pour la énième fois avec mon patron. Ça marche. Il a eu des paroles vachement dures et ça m'a blessé, ça m'a cassé, ça m'a détruit. Je me sens nul quand il me regarde, je me sens nul quand il parle. Ça produit quoi comme sentiment? Ça produit quoi comme émotion? Et si j'en parlais juste à Dieu, quoi? Si je le mettais au pied de la croix? C'est la journée. Demain, il va se passer d'autres choses. Voici la journée. Et troisième point, que l'Éternel a faite. Et là, on rentre dans une dimension incroyable. Je ne sais pas, vous imaginez que Dieu, sur son agenda, il a calibré, il a créé des journées pour chacun d'entre nous, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus, quoi. Et c'est Dieu qui a prévu chacune de nos journées. Et ce que nous vivons n'est jamais le fruit du hasard. Mais tout est calibré, tout est préparé. Les rencontres que l'on va faire, les opportunités que l'on va avoir, même les galères, elles sont calibrées de manière à ce qu'elles ne nous dépassent pas. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune épreuve, aucune tentation, c'est le même mot en grec, qui ne vous soit arrivé, n'est au-dessus de vos capacités ou au-dessus de vos forces. Mais Dieu a déjà prévu le moyen d'en sortir. Tout est calibré. Et ça a un but pour Dieu. J'aime beaucoup ce verset de Paul aux Philippiens, alors qu'il va laisser Tychic qui est malade. Il va dire, il a été malade en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-dessus de nos forces. Alors on peut râler, on peut pester, on peut se dire que tout est au-dessus, qu'on n'y arrivera pas, etc. Mais il y a toujours cette réalité. C'est que notre journée n'est pas le fruit du hasard et que tout a été calibré et que tout a été préparé. Notre journée, elle a un but pour Dieu. C'est-à-dire que une journée, ce n'est pas simplement pour que nous vieillissions, pour que les cheveux blancs se forment sur notre tête ou pour qu'ils disparaissent de la tête de certains. Il est où? Je ne le vois pas. Ah si, il est derrière. Ok. Mais ça a un but. celui de nous faire ressembler à Jésus. Petite parenthèse, c'est quoi la sanctification ? Chut, fila, tu te tais. C'est quoi la sanctification ? Il y a deux types de sanctification. Là. C'est la sanctification de position, ok, et la sanctification de marche, très bien. C'est quoi la sanctification, concrètement, en une phrase ? Ça n'a rien à voir avec la longueur de la jupe. Ça n'a rien à voir avec notre vocabulaire. Ça n'a rien à voir, quoique de manière indirecte, ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Mais la sanctification, c'est juste le fait de ressembler à Christ. Ok ? Et forcément, quand je ressemble à Christ, il y a bien des choses qui changent. Mais ça, c'est les phénomènes collatéraux. Ok ? Le légalisme met l'emphase sur ce que nous faisons. La foi met l'emphase sur notre relation avec Dieu qui va impacter ce que nous faisons. Ça marche ? Et donc, une journée, ça a pour but de développer en nous la personnalité de Christ. Ni plus, ni moins. Aujourd'hui, a pour but de développer la personnalité de Christ en moi. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça donne un sens, ça donne un but. Et c'est en cela que le petit check-up dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est important. C'est de dire, finalement, qu'est-ce que tu veux m'apprendre sur moi aujourd'hui ? Allez, si vous n'avez pas le cœur de le faire toutes les semaines, tous les jours. Alors pour les retraités, vous n'avez aucune excuse. Que les choses soient claires. Ok ? Mais pour les autres, allez, une fois par semaine, un petit check-up. En disant, cette semaine, qu'est-ce que tu m'as appris sur moi ? Qu'est-ce que tu m'as appris sur le chrétien que je suis ? Qu'est-ce que les circonstances de la vie m'ont appris sur le chrétien que je suis ? Qu'est-ce que mes relations avec autrui m'ont appris sur le chrétien que je suis ? Qu'est-ce que mes coups de colère ? Qu'est-ce que mes impatiences ? Qu'est-ce que mes succès également ? C'est les choses dont je peux être fier m'ont appris sur le chrétien que je suis. Vachement intéressant, ça, non ? Et tout d'un coup, la vie chrétienne trouve du sens. Parce que ça, on peut le transformer en prière. Et puis, on peut voir nos changements, on peut voir nos évolutions. Et ça, j'allais dire, ça rend notre relation avec Dieu hyper concrète. On n'est plus du tout dans des listes de prières, on n'est plus du tout dans quelque chose qui, j'allais dire, est très théorique. Mais on devient dans quelque chose, on rentre dans une dimension qui est vécue. On sort de la religion, on sort des actes qui sont posés et qui finalement ne servent pas à grand-chose et qui nous mettent sous une forme de... presque de culpabilité parce qu'on se dit qu'on les fait toujours mal ou qu'ils ne servent pas à grand-chose ou qu'ils ne produisent pas du fruit. Mais quand je rentre dans cette démarche-là, que je présente une forme d'introspection à Dieu et que je lui demande de changer les choses et que je rentre dans une discussion avec lui, que je rentre dans un échange avec lui, alors il se produit un truc. C'est que je rentre dans une véritable démarche de changement. Et ça, c'est utile. Et ça, ça a du sens. Et ça, ça veut dire quelque chose. Je peux vous choquer ? Il y a une sœur qui fait non de la tête. Bon, allez, j'y vais quand même. D'accord, vous me pardonnerez ? Ok ? On peut lire sa Bible sans que ça change rien dans notre vie. On peut prier sans que ça change rien dans notre vie. On peut venir tous les dimanches à l'église sans que ça change rien à notre vie. Et moi, pas ici, hein, mais dans d'autres églises que j'ai fréquentées, j'ai vu des chrétiens qui n'ont jamais changé. Mais ce n'est pas le cas ici, donc vous êtes peinards. Ouais, tranquille. Nathanaël, il me fait, non, tu te trompes, là, c'est bon. Il n'y a aucun chrétien de Colombie qui est comme ça. Mais c'est normal. Une église ressemble à son pasteur. Hein, donc, voilà. Et, ou à la femme de son pasteur, plutôt. Mais bon, ça, parce que, c'est ce que dit l'apôtre Jacques, à partir du moment où je plonge mes regards dans la parole, et puis que finalement, ce qui m'est révélé ne produit pas une introspection et ne produit pas un changement, bah, c'est de la religion, quoi. C'est un petit peu comme si vous vous levez le matin et que vous voyez plein de crottes d'œil un peu partout. Oh, quelle sale tête ! Et puis vous partez. Sans rien changer, sans vous nettoyer. C'est à peu près la même chose, quoi. Eh bien, on peut venir dans l'église avec plein de crottes d'œil partout dans notre cœur et se dire, bah voilà, c'est pointé, ben on continue notre vie comme ça, quoi. Il y a cette démarche qui est vachement importante. C'est la journée que l'Éternel a faite pour que tu puisses changer. Ça marche ? Ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau. Mais pourtant, c'est hyper important. C'est la différence entre la religion et la foi. Ça ne va pas trop choquer ? Non ? Ok, je pourrais recommencer ? Ok, merci. Je suis soulagé, là, je m'en serais vachement voulu quand même. Je m'en serais vachement voulu. Ok ? Quatrième point. Qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie. Il y a des versets dans la Bible, moi, que je n'aime pas. Parce que j'arrive pas à les vivre. Est-ce que vous arrivez à vivre toute votre journée, toutes vos journées en étant joyeux ? Oh ! Pourtant, l'apôtre Paul, il le dira, hein, Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous, bande de païens ! C'est vrai, quoi ? Donc, c'est nous qui ne sommes pas normaux. Ouais, non, je suis à 2%, Nathanaël. En réalité, le texte grec est un petit peu différent. Et je vais vous le dire très clairement. Très souvent, enfin, on peut être chrétien et être triste, quoi. On peut être chrétien et traverser la dépression. Je le redis. Des chrétiens authentiquement convertis, nés de nouveau, peuvent traverser la dépression. Ok ? Dans un deuil, on n'a pas sauté de joie. Dans l'épreuve, on a le droit et d'être triste et d'être en colère. Parce que c'est tout à fait normal, parce que c'est tout à fait légitime, parce que c'est tout à fait humain. Quand la Bible nous appelle à nous réjouir toujours dans le Seigneur, c'est un texte grec, c'est un mot grec qui est très particulier, qui veut dire, en somme, soyez toujours capable d'accueillir la joie que Dieu vous donne. C'est-à-dire que dans les journées les plus noires, que votre cœur soit toujours capable d'accueillir le petit cadeau qui va vous permettre de vous appuyer et de traverser la journée compliquée que vous êtes en train de vivre. Ni plus, ni moins. Il ne s'agit pas d'avoir une joie transcendante, il ne s'agit même pas d'avoir une forme de joie divine, bien que Dieu, le Saint-Esprit, puisse nous le donner. Mais c'est juste cette capacité que l'on a vocation à vivre, de dire, je choisis d'être capable de recevoir la grâce que Dieu me donne aujourd'hui pour traverser aujourd'hui. Ok ? Et ça peut être n'importe quoi. Je me souviens d'une fois où c'était à Saint-Brieuc. J'étais moniteur d'école du dimanche et puis j'étais de mauvais poil. Ce jour-là, ça devait m'arriver assez fréquemment. Ça m'arrive assez fréquemment. Et j'allais pas bien, j'étais en train de bouder. J'avais une brave sœur là, qui était en train de faire chanter dans la grande salle. Elle chantait faux comme une casserole. C'était horrible. Ça me gavait. J'en avais ras-le-bol. Les enfants étaient insupportables. Bref, j'étais assis et puis je faisais du bouddha. Et là, tout d'un coup, il y a une petite fille. Je n'ai jamais su vraiment son nom. Elle est venue s'asseoir sur mes genoux et puis elle m'a regardé. Et dans les yeux de cette gamine, c'était un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Et c'est comme si j'avais le regard de Jésus qui était là et qui me disait, mais je suis là, quoi. Même si la brave sœur, elle chante faux comme une casserole, alors on va éviter de chanter faux comme des casseroles quand même, hein, ok ? Même si, t'es bougon, même si, mais je suis là, quoi. Accueillir la joie ou les joies que Dieu nous donne
dans les moments qui sont compliqués de nos vies. Ça ne changera pas le fait que nos journées sont compliquées. Ça ne changera pas les larmes. Ça ne changera pas parfois les coups de colère. Ça ne changera pas parfois le fait qu'on a envie de tout plaquer. Mais ça permettra que l'on reste juste en Jésus et qu'on s'appuie juste sur les cadeaux que Dieu nous donne, quoi. C'est tout. C'est tout. Voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie. Dieu nous donne des choses à accueillir. Dieu veut notre bien et Dieu veut ton bien. Tu es la prunelle de ses yeux, tu es ce qui compte le plus pour lui. Dieu veut ton bien. Il est au-dessus de toutes les circonstances. Et à ce verset qui est extraordinaire et qu'on connaît tous bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et le mot qui est en gras, c'est le mot concourir. Vous savez, ça m'a fait penser un petit peu comme un faisceau laser. D'accord ? C'est-à-dire que tous les rayons convergent vers un seul point. Ils ont des origines qui sont différentes. Ils ont, j'allais dire, des fréquences qui sont différentes, mais ils vont tous vers un même point. Et toutes les circonstances de nos vies, les bonnes, les moins bonnes, les mauvaises, vont tous vers un point, notre bien. Ok ? Tout va dans ce sens. Qu'on le veuille ou non, Dieu se sert de tout pour notre bien, parce que nous sommes dans son plan, parce que nous sommes dans son dessein, parce que nous sommes en lui et parce que nous sommes avec lui. Ok ? Voici la journée que l'Éternel a faite. Je ne sais pas quelle couleur elle a pour toi. Je ne sais pas si elle est bonne d'emblée, ou si elle s'inscrit dans un cadre plutôt compliqué. Mais c'est l'Éternel qui l'a faite. Et pour conclure, j'aimerais juste, alors qu'on va prendre le repas du Seigneur dans quelques instants, qu'on puisse se déconnecter du passé, que l'on puisse se déconnecter de l'avenir, juste pendant quelques minutes, pour se concentrer sur le temps que nous sommes en train de vivre. Nous le savons, alors que nous allons prendre le pain et le vin, le passé, il a été porté à la croix. Ton péché, tes fautes, elles ont été portées à la croix. Tes blessures, tes souffrances, Jésus les a portées à la croix. Tes maladies, Jésus les a portées à la croix. Et je crois que ça, tu peux te le rappeler dans un premier état, lorsque tu vas prendre tes gobelets. Tu peux dire, ok, mon passé, il est ce qu'il est, tu l'as réglé, et là, dans ce moment-là, je veux le laisser de côté. Pour me concentrer sur mon présent. Pour me présenter sur le moment. Je ne sais pas si ce moment va changer ta vie. Je ne sais pas si ce moment va avoir un retentissement éternel. Je prie pour, je le crois. Mais ce que je sais, c'est que ce moment-là, il peut juste te faire du bien. C'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Il peut juste te donner des forces. Il peut juste te donner un élément de joie sur lequel tu pourras t'appuyer, que tu pourras accueillir. Il pourra juste te permettre de sentir la présence de ton Père, la présence de ton Dieu, la présence de ton ami dans le moment que tu es en train de vivre. Il pourra juste te permettre de sentir à nouveau un truc que tu as oublié. C'est l'amour de ton Dieu. parce que tu es tellement préoccupé par ton passé, tellement préoccupé par ton avenir, que quelque part, tu as juste oublié quelque chose, c'est que Jésus est présent là maintenant. C'est tout. C'est tout. Hé, tu peux te lever à ta place, là ? Et là, dans ce moment, tu vas faire un truc que les pentecôtistes ne font pas souvent. Tu vas juste te taire. Juste te taire. Et juste connecter ton cœur au cœur de Dieu. Juste kiffer le moment. Les problèmes, ils sont à la croix, là. Demain est entre les mains de ton Père. Et toi, t'es juste là avec lui. C'est tout. Si tu veux te débarrasser de bricoles, tu imagines la croix. Et tu déposes ces bricoles, là. Tu les emmènes. Nettoie ton âme. Juste ça. Dieu est derrière toi, il est devant toi. Il est juste avec toi. C'est le moment que l'Éternel a fait. C'est la minute, la seconde. Ferme juste tes yeux là. Ressens la présence de Dieu. Ressens le calme. Ressens enfin le calme. Je propose de faire un truc un peu bizarre. Là encore, que les pentecôtistes n'ont pas l'habitude de faire. À ta place, dis juste une phrase que tu as sur le cœur. À haute voix, tu le souhaites. Juste une phrase, juste un mot. Vas-y. Ça n'a pas besoin d'être long, ça ne doit pas être long. Juste la présence de Dieu là. S'emparer de ce que tu dis. Juste ressentir le calme, sérénité. Accueille-la, cette sérénité. Menez préoccupation ton esprit. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu t'es levé pour calmer la tempête. Au milieu de cette déferlante, au milieu des vagues, qui étaient en train de remplir le bateau des disciples. Dormait. Tu as su te lever pour la calmer. On n'est pas capable de dormir dans les tempêtes, Seigneur. On est tellement loin de cet état. Mais je te bénis parce que ce matin, je crois que tu calmes des tempêtes dans les cœurs et dans les vies. Je crois que durant cet instant, tu rétablis une forme de calme, une forme de paix. Que c'est le moment que tu as fait, le moment que tu as prévu pour mettre de la stabilité dans une âme, dans un cœur. Je te prie que, au moment de prendre des éléments de la scène, tu puisses donner ta paix, non pas comme le monde donne, que tu puisses donner de la joie qui sera accueillie et sur laquelle on pourra s'appuyer. Merci de tout cœur, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.
Pour prolonger ce temps où on se connecte à Dieu, nous voulons honorer aussi ses préceptes et ses ordonnances. Ressembler à Jésus, c'est être un peu plus, être comme lui chaque jour, dans l'obéissance au Père et à sa parole. J'invite tous ceux qui ont été désignés pour la Sainte Cène à s'approcher et à commencer à servir ces emblèmes, le pain et le vin. Si la joie, celle que Jésus nous donne dans cette journée, peut avoir lieu, c'est que lui a tout accompli. Il est mort et il est ressuscité. Et tous ceux qui prennent ce pain et ce vin déclarent qu'il va revenir. Alléluia, parce qu'il est mort, oui. Peut-être certains ont des doutes sur sa résurrection, mais comment pourrait-il revenir s'il n'est pas vivant? Et nous nous déclarons, en prenant ce pain et ce vin, Jésus, toi-même, la mort ne pouvait te retenir. Alors, dans ce temps où nous voulons vivre ces instants de qualité avec notre Dieu, je vais vous inviter à prendre ce pain et ce vin en déclarant ceci. Jésus, tu es plus grand que tout ce que moi je définis comme impossible. Tu es au-dessus de tout. Et je veux dépendre de cette grâce que tu as accomplie à la croix.